La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour...
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Objets, objets envahissants, compagnons encombrants de nos vies, l'art vous a réservé une place oscillant entre le déchet négligé et le fétichisme, l'outil et le symbole, et de l'indifférence à l'appropriation effrénée. Vous êtes les choses. Et un nom a été donné au genre que votre rassemblement sur un tableau a constitué, que l'on appela en France bizarrement la nature morte, et dans le monde anglo-saxon, still life, la vie silencieuse. Or, un livre vient d'être publié chez Gallimard et écrit votre histoire dans l'art. Il s'appelle « Pour en finir avec la nature morte ». Et soudain, s'élargit sous la plume savante de Laurence Bertrand d'Orléac votre vrai et continuelle présence, votre rôle, et s'éclaire ainsi la relation que nous entretenons justement avec vous, les choses, la relation de l'homme et de l'inanimé, du vivant et du non-vivant. Objet gourmand, signe spirituel, témoin de l'avidité du capitalisme, ou précieuse relique des drames religieux, simples outils ou souvenirs, ou même, au pire, vie rabaissée à l'état de marchandise, l'auteur contredit cette idée d'une apparition limitée aux quelques siècles de la nature morte et trouve les traces de ce compagnonnage dans les premières collectes de nos frères cro-magnons ou néandertaliens. Puis, dans les représentations de l'art, de ses origines à nos jours. Dans ce livre sur les choses, c'est bien de l'homme qu'il s'agit, de sa relation réelle et de l'asservissement qu'il fit de la nature. Avec enthousiasme et parfois mélancolie, avec drôlerie et tragique, observons ensemble la métamorphose de l'inanimé dans l'histoire de la représentation, et cela avec l'auteur Laurence Bertrand d'Orléac. Bonjour Laurence, comment allez-vous ?
Bonjour Jean, je vois que vous parlez aux choses comme à des personnages de l'histoire et c'est une très bonne entrée en matière.
Mais oui, c'est ça. Objets inanimés, avez-vous une âme ? C'est Lamartine.
Eh oui, on en revient toujours à ce bon Lamartine.
Chère Laurence, vous êtes historienne de l'art, professeure à Sciences Po. Vous avez écrit de très nombreux livres. Je pense par exemple à L'art de la défaite, 1940-44, que vous aviez fait au Seuil. Et puis aussi le fameux livre qui mettait en relation le pessimisme de Spengler et la résurrection de Monet, Contre le déclin, ça s'appelait, je crois. Et puis vous êtes commissaire de nombreuses expositions. Vous savez que quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, mais ça serait une exposition formidable.
Bon, vous n'êtes pas le seul, et bien alors a lieu, vous êtes exaucé.
C'est vrai, mais où ? On peut le dire ?
Elle aura lieu, ah oui, oui, absolument, c'est tout à fait officiel, elle aura lieu au musée du Louvre, elle commencera le 12 octobre 2022, et elle finira le 23 janvier 2023. Voilà, ce sera une grande exposition que nous organisons avec Dimitri Salmon et puis avec beaucoup de monde, parce que vous savez, une exposition, ça se voit beaucoup plus qu'un livre, heureusement d'ailleurs, ça se fait avec toute une communauté, à la fois de savants, de gens expérimentés, surtout d'œuvres qui sont des personnages et des artistes, bien sûr, et en particulier des artistes contemporains.
Parce que c'est ça la particularité. L'une des particularités de votre livre, c'est que on va des origines de l'histoire à nos jours. Le monde contemporain que vous connaissez fort bien est inclus dans votre analyse et vos comparaisons entre la Grèce et Fluxus, entre l'art du XVIIe siècle et nos jours. Et justement, y a-t-il, nous qui avons beaucoup souffert, je crois, ces derniers mois, d'être limités à des petits appartements dans lesquels l'encombrement des objet est immense, y a-t-il eu des moments où l'art s'est passé des objets ?
Oui, enfin, disons que Oui et non. Il ne s'est jamais vraiment passé des objets, mais il leur a donné une place plus ou moins importante. Alors, j'ai voulu, disons, dans ce livre, essayer de poser des questions stupides, partant du principe qu'il n'y a pas de questions stupides, justement, des questions sur des idées reçues. Vous savez, le genre de la nature morte, c'est un genre très très bien connu maintenant, très bien répertorié, peut-être un peu trop bien justement.
Moi, je croyais que ça, Laurent, je croyais que la nature morte c'était 250 ans grosso modo, peut-être 300, très limité. C'est faux.
Alors évidemment, d'abord c'est une expression stupide, bon, dont je voudrais bien qu'on se débarrasse une fois pour toutes. Tout le monde s'en plaint de cette expression en français, j'entends. Nature morte, c'est un terme qui naît vers le milieu du, disons, ou la fin du XVIIe siècle. Disons, elle s'impose vraiment à partir de la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où le genre, donc c'est, qu'est-ce que c'est finalement la nature morte? C'est un agencement de choses, hein, ce sont des choses en un certain ordre à assembler, disons. Ce genre, ça existe depuis toujours. J'essaie de montrer justement que contrairement à ce qu'on dit, ces choses ont intéressé les artistes, mais des artistes anonymes, bien avant l'Antiquité. D'habitude, on fait démarrer les histoires de la nature morte sous l'Antiquité, mais en fait, elles ne sont pas nommées ainsi, disons. Alors, à partir du XVIIe jusqu'au XXe, XXIe, disons, en effet, vous pensez plutôt à une sorte d'âge d'or,
ben oui,
de la représentation des choses. Mais dans les faits, c'est la question très, très idiote que je me suis posée, mais c'est quand débute le dessin des choses? Alors, on disait, bon, par exemple, d'ailleurs, cette exposition que nous préparons, ce sera un hommage à Charles Sterling qui a organisé la dernière grande exposition à Paris. Charles Sterling était un formidable conservateur du musée du Louvre, très inventif, et il a fait une grande exposition qui s'appelait « La nature morte, de l'Antiquité à nos jours ».
Vous y revenez beaucoup dans le livre, hein, visiblement, oui. c'est un moment très clé.
Ben oui, parce que c'est un dialogue. Vous savez, je crois, Jean, que au fond, on dialogue toujours avec les anciens, avec les disparus, on n'est pas si contemporain que ça, je crois.
On n'est pas séparé de nos prédécesseurs.
Non,
on continue la conversation.
Non, il y a un. Je le cite d'ailleurs. Il y a un chercheur qui a inventé cette expression « communauté morte vivante ». Et je trouve ça magnifique, en fait. C'est l'idée que, au fond, nous dialoguons avec des gens qui ne sont plus là, mais qui ont laissé des traces. Charles Sterling, cette exposition, bon, elle a laissé au moins un livre, justement. Et puis des témoins, bon, il y a des gens comme Michel Laclotte qui m'ont beaucoup parlé de cette exposition. Elle a beaucoup marqué parce qu'elle était très ambitieuse. Mais en 52, vous imaginez bien qu'il n'y avait pas encore le pop art, il n'y avait pas encore la société de consommation telle qu'on l'a connue. Évidemment, il n'y avait pas cette profusion des choses, mais c'était quand même le début. Et d'ailleurs, ça l'inquiétait, il en parlait dans son.
Alors. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est que l'exposition sur la nature morte de Sterling est contemporaine au fond de la naissance du pop art. Exactement contemporaine. Donc le monde,
oui,
des objets, de deux façons, surgit dans l'histoire.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'était quelqu'un qui était sensible au contemporain. Il s'est interdit, par exemple, de parler du cinéma ou de la photographie, alors que lui-même était conseiller parfois pour le cinéma. Alors nous, évidemment, on va beaucoup présenter de photographie et du cinéma. Mais disons qu'il est, oui, il est très imprégné de. Et puis, vous savez, on travaille toujours avec notre époque, finalement. Je dis que on dialogue avec les anciens, c'est vrai, et puis avec nos contemporains. Et c'est un livre, c'est un exercice à la fois très despotique, mais finalement c'est un exercice très collectif, c'est comme une exposition. Encore une fois, ça se voit moins parce que c'est signé et puis parce que c'est très personnel aussi, c'est une écriture, disons. Mais il y a énormément de fils dans. Alors, vous disiez tout à l'heure que on partait du passé pour venir, disons, vers le présent. Si je puis me permettre, c'est plutôt le contraire, peut-être. C'est plutôt que je parle,
hein,
du,
oui,
présent.
Oui.
Dire que je pars des artistes et des œuvres contemporaines, disons, qui évoque ou qui dialogue très explicitement avec le passé. Alors, parfois, c'est très explicite et les artistes en réclament, et puis parfois non, et c'est moi qui les imagine, ces liens, ces correspondants, disons, par-delà les événements et le temps.
Alors, Laurence, on va écouter juste quelques lignes de Sterling pour voir comment il définit la nature morte. Et ensuite, j'aimerais bien que vous nous racontiez quand a commencé cet attachement au monde des objets. Écoutons déjà Sterling. Nous sommes en 52.
Une authentique nature morte naît le jour où un peintre prend la décision fondamentale de choisir comme sujet et d'organiser en une entité plastique un groupe d'objets. Qu'en fonction du temps et du milieu où il travaille, il les charge de toutes sortes d'allusions spirituelles, ne change rien à son profond dessein d'artiste. Celui de nous imposer son émotion poétique devant la beauté qu'il a entrevue dans ses objets et leur assemblage.
Cher Laurence, on a entendu Sterling à l'instant, et c'est assez curieux de voir qu'il attache de l'importance à la sensation qu'a l'artiste devant l'objet, plus qu'à la signification qu'a l'objet.
Oui, alors évidemment, c'est un historien de l'art, et il voit midi à sa porte, et je suis aussi historienne de l'art, alors j'ai tendance à penser que les artistes, évidemment, n'ont qu'une croyance, qu'une vraie croyance, hein, qu'un seul Dieu, c'est l'art, c'est la forme. En fait, c'est donner une forme au monde. Mais il n'empêche que je serais peut-être moins radicale de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je dirais que les artistes sont quand même traversés par les croyances de leur temps, par leurs propres croyances, par leur propre histoire, par leur histoire à la fois collective et singulière et personnelle. Donc, bien sûr qu'il y a in fine des formes et c'est ça qui est déterminant. En tout cas, c'est ça qui prime sur le reste et c'est ce qui me permet d'établir des correspondances qui sont parfois complètement loufoques, qui feraient certainement hurler même certains artistes du passé. Mais en fait, la forme dit des choses au-delà de l'histoire, au-delà de tout finalement. C'est ça finalement aussi l'anthropologie de l'art et ce qui fait sa continuité, disons, depuis toujours, depuis les grottes, depuis la préhistoire, depuis les traces de la préhistoire.
Alors en fait, puisque vous parlez de cela, il est vrai que vous montrez la transformation de l'attachement à l'objet et l'évolution de sa signification dans l'art japonais ou dans l'art du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, dans l'art religieux ou dans l'art profane. Mais vous commencez votre livre par l'attachement à l'objet et c'est vrai que c'est vous le fixez comme cela donc aux Moustériens ou aux Gravettiens à la préhistoire. Les premiers signes de l'attachement c'est là et ensuite vous le comparez, vous l'opposez à cette accumulation fabuleuse de Toutankhamon. Racontez-nous ce passage.
Alors, en réalité, donc, je fais un pas en arrière, un pas en plus en arrière, puisque, comme nous l'avons dit, donc, l'agencement des choses, donc la représentation des choses, dans toutes les expositions sur la longue durée de la nature morte, disons, commence avec l'Antiquité grecque. Vous savez, les Grecs ont tout inventé, même la démocratie, c'est bien connu. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait il reste peu d'œuvres, mais il reste des choses, et puis il reste surtout des textes, des noms d'artistes, des commentaires sur la valeur des œuvres. Mais ce qui m'a davantage intéressé, c'est comment les hommes, peut-être les femmes d'ailleurs, et pourquoi pas les enfants, comme vous le savez, parfois on se demande s'ils n'ont pas travailler sur certaines parois, en tout cas préhistoriques. Comment donc le dessin des choses est-il né? Alors j'ai essayé très bêtement, j'ai essayé de chercher quelque chose qui n'intéresse pas grand monde, parce qu'il faut être obsédé par les choses, évidemment, généralement on s'occupe plutôt des animaux, peut-être d'un signe humain. Bon, moi j'ai trouvé par exemple peut-être l'un des premiers objets dessinés, bon, en tout cas qui nous reste évidemment de l'histoire, c'est certainement pas le premier. C'est la corne de bison que tient, vous savez, la Vénus de Locelle en Dordogne, bon, 25 000 ans avant notre ère à peu près, hein, c'est certainement un signe de fertilité. Hein, mais c'est très, c'est sublime, évidemment.
Il s'agit d'un bas-relief sur une roche avec une
exactement.
Vénus qui tient une corne encochée, comme
voilà.
ça, de 28 signes, et qui a l'autre main sur son ventre. C'est cela, hein?
Exactement. Donc, d'où l'interprétation. Hein, peut-être sur laquelle on peut s'accorder, sur laquelle, vous savez, les préhistoriens sont très prudents, beaucoup plus prudents même que les contemporanéistes, et c'est un monde merveilleux justement parce que très ouvert en signification. Mais enfin bon, on peut s'accorder peut-être sur un signe de fertilité, disons. Hein, alors ensuite, il y a très peu de choses en fait hein, qui sont restées, mais il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup sur les parois d'Altamira aussi, alors un peu plus récent, hein, enfin tout ça se passe quand même certainement entre 15 000 et 13 000, disons, avant notre ère. Et on voit une silhouette humaine et les spécialistes hésitent encore sur l'objet que porte sur la tête un petit personnage. Il y en a qui voient un arc et d'autres un panier, vous voyez. Et ça m'amuse parce que en histoire de l'art, c'est souvent comme ça. Il y a toujours au moins deux solutions, en fait. Et alors, les premières choses représentées, disons, pour elles-mêmes, c'est-à-dire sans personnage. J'ai tellement embêté mes amis préhistoriens ou amateurs de préhistoire que l'un d'eux, Rémi Labrusse, m'a dit quand même il y a ces haches à Gavrinis.
Gavrinis bon, dans le golfe du Morbihan, magnifique.
Voilà, que vous connaissez bien, magnifique. Alors, ce sont des haches votives, hein, et vous savez, sur le temps très long, on s'aperçoit évidemment que le temps du sacré, c'est pas à vous que je vais dire ça, bien sûr, mais le temps du sacré, voire le temps religieux, est beaucoup plus long que le temps du profane, et ces haches qui sont certainement des haches votives, bien entendu, c'est un lieu tout à fait votif, sacré, mais ce sont uniquement des haches avec quelques décorations autour, c'est une sorte, si vous voulez, de série à la Warhol, mais 3500 ans avant notre ère, vous voyez, et c'est magnifique, et ça a inspiré Hubert Duprat, dont l'exposition a toujours lieu là, très excellente exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui a trouvé une hache néolithique quand il était très jeune et l'a plantée sur un pain d'argile qu'il a conservé d'ailleurs dans du plastique pour bien montrer qu'il appartient à notre époque, c'est-à-dire à l'époque de cette terrible époque du plastique dont on parle de plus en plus d'ailleurs. Et vous voyez donc, c'est ce genre de recyclage qui m'intéresse beaucoup. Mais enfin, pour répondre à votre question, c'est amusant de penser qu'au fond, la première nature morte, peut-être. Pourquoi ne pas finalement la considérer comme à Gavrinis, imaginée donc par des artistes anonymes, mais qui finalement représentent déjà des choses pour leur belle forme, parce que comme le disait pour le coup Sterling, c'est vrai qu'il y a une attention aux formes des artistes, qu'ils soient anonymes ou non, qu'ils soient enfants, femmes, hommes, mais une attention à la joliesse des choses, à leur caractère amusant aussi. C'est ce qu'on va voir dans certaines autres
Laurence,
cultures,
vous dites,
comme la culture.
Vous dites cela, mais évidemment, c'est aussi des signes d'ostentation, c'est des signes symboliques, c'est pas seulement la beauté, c'est probablement des signes de pouvoir. Et qu'est-ce qui va se passer
Bien
quand
sûr.
On va se rapprocher des grandes cités, de l'époque égyptienne, par exemple, ou mésopotamienne, quand il va y avoir, vous étonnez, de l'abondance d'offrandes qu'il y a. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, les objets envahissent tous les mondes, y compris celui des morts?
Alors là, évidemment, les archéologues et les préhistoriens en particulier, c'est très intéressant. Enfin, c'est la question du néolithique qui quand même est la première période d'accumulation déjà, de première accumulation des choses. Mais c'est vrai qu'il va y avoir vraiment une espèce de montée en force, disons, des choses, et en particulier en Mésopotamie déjà, on trouve qu'elle a été redécouverte donc au XIXe siècle. Les choses occupent une place vraiment importante. Elles servent à, comme vous le disiez, à représenter à la fois le faste, le pouvoir, à montrer les actions, à montrer les statues, les majestés, disons les. Bon, ce sera beaucoup d'offrandes, en fait. C'est le monde des vivants, si vous voulez, mais c'est aussi le monde des morts. C'est un monde qu'on connaît moins, nous, si je puis dire, et on en a parlé un petit peu pour une fois pendant la pandémie, pour des raisons évidentes et dramatiques, mais ce monde des morts était évidemment beaucoup plus présent dans le monde des vivants, et il s'agissait en fait de perdurer, de faire perdurer la vie dans la mort, et donc il fallait des représentations d'offrandes, et en particulier on en a trouvé beaucoup dans les tombes, qui sont de véritables natures mortes, disons, plusieurs milliers d'années avant notre ère. On voit, si vous voulez, des accumulations de viande, de légumes, de fruits, des boissons. Les choses, finalement, sont là pour garantir la vie, disons, dans l'au-delà. C'est le même principe en Égypte, ce qu'on appelle les tables d'offrande, si vous voulez, sont représentées pour honorer les dieux et pour garantir donc la vie des morts dans l'au-delà. Et
vous êtes stupéfaite dans le livre, pardon Laurence, dans le livre vous paraissez stupéfaite de l'abondance de cadeaux ou d'offrandes qui sont faites à Toutankhamon par exemple, dont évidemment on a vu l'exposition avec son succès, qui est curieusement le succès d'une exposition qui célèbre la collection d'objets que Toutankhamon a emporté avec lui dans l'autre monde.
Oui, c'est vrai, le premier grand succès d'une énorme exposition, disons, d'un blockbuster, comme on dit maintenant, date au fond de la société de consommation aussi. Quand on a vu cette photo extraordinaire de l'antichambre avec une partie du mobilier funéraire de la tombe de Toutankhamon, c'est un véritable bric-à-brac de choses. C'est extraordinaire, c'est une sorte de marché aux puces, enfin, qui a dû, je pense, inspirer des artistes comme Spoerry. Enfin, effectivement, il y a une prodigalité des choses qui sont là pour à la fois signifier la richesse, mais également, au fond, la vie, hein, et certainement pas la mort au sens de la mort, de la mortification, mais au contraire de redonner vie. Il reste peut-être quelque chose, au fond, dans nos natures mortes contemporaines, de tout ça. Enfin, en tout cas, j'imagine, je me plaise à imaginer qu'il reste finalement des traces de cette histoire longue. Alors,
puisque vous parlez de l'art d'aujourd'hui qui porte encore des traces, il y a un moment extraordinaire dans le livre, c'est quand vous parlez d'un artiste que je ne connaissais pas et qui a effectivement beaucoup d'importance, surtout quand on aime l'art contemporain, et qui s'appelle, comment est-ce qu'il s'appelle, Ripa, où est-ce qu'il est celui-là? C'est un riparographe. Comment est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
Alors, bien sûr, le riparographe, c'est celui au sens, disons, pour traduire rapidement, enfin, c'est le peintre des objets vils, des objets sordides, des choses sordides. C'est Pyraïkos, en fait, c'est 4e siècle avant notre ère, et là, on est en pleine antiquité, et c'est Pline qui reprend d'ailleurs des témoignages et qui parle de ce peintre des choses vils, qui avait beaucoup de succès, en fait. Et qui peignait certainement sur tablettin. On imagine toujours, là aussi, c'est une idée reçue, que les tablettins, disons, qu'on transportait, sont beaucoup plus récents. En réalité, ils datent certainement de cette époque, et il peignait des victuailles, des choses banales, disons, de la vie quotidienne, mais qui étaient très prisées. On dit que il avait beaucoup de succès, si vous voulez, à l'époque. On sait aussi que, évidemment, il y avait des mosaïques de victuailles qui étaient laissées sur le sol, vous voyez, c'était pour les dieux. On laissait après les festins des choses traînées. On en voit donc une trace dans la mosaïque donc héritée de Sosso de Pergame qui est conservée au Vatican, donc qui est une reproduction, qui est un recyclage romain, disons.
Oui, c'est comme un pavement qui n'a pas été balayé, il y a des restes
exactement,
de tout.
Exactement, le sol mal balayé, exactement, c'est le nom qu'on lui donne, oui. Et alors, vous voyez cette œuvre-là, par exemple,
oui.
Il est évident que une jeune amie, donc Déborah Lax, m'a envoyé l'archive quand elle l'a trouvée. Ça l'a beaucoup amusée parce qu'elle savait que j'avais mis en correspondance les tableaux pièges de Spoerry avec Sosso de Pergame. Et elle me dit, regarde, j'ai trouvé justement le moment où Spoerry parle de ça, il connaît très bien Sosso de Pergame. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que j'aime aussi.
Alors, Spoerry, faut que vous disiez aux auditeurs qui c'est, parce que à quoi ça ressemble, qu'on comprenne bien la relation entre ces mosaïques où traînent des déchets, des bouts de poulet, des fruits, des cosses de châtaigne, etc., extraordinaires, de 4 mètres, et les tableaux pièges de Spoerry, de quoi s'agit-il?
Alors, les tableaux pièges de Spoerry, si vous voulez, ce sont des fins de repas, si vous voulez, entre amis, qui sont collés sur la table, vraiment grandeur nature, si je puis dire, et qui sont ensuite reportés, si je puis dire, portés sur le mur, vous voyez, portés donc de l'horizontale. Hein, vous imaginez votre table, une fin de repas. Spoerry fixe tout ça et l'installe donc sur le mur comme un tableau. Et il appelle ça des tableaux pièges. C'est le piège du réel dans les années 1960. Là aussi, on est dans le début vraiment de la grande société de consommation, disons, telle qu'on commence à la connaître en France, telle qu'on la connaît déjà aux États-Unis. Il appartient au mouvement qui s'appelle les nouveaux réalistes, qui s'intéresse au réel, mais lui, disons, s'intéresse aux choses souvent déjà usagées, si vous voulez, voyez, aux signes du passé.
C'est aussi, Laurence, au mouvement de la vie. Il y a un texte que vous citez dans votre livre, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien qu'on l'écoute. C'est un petit texte où il parle justement de ce mouvement de la vie dont le tableau et les amitiés et les sentiments, du coup, dont le tableau piège, dont est l'objet.
Je me suis dit que si je fixais quelque chose qui avait été en mouvement, il était possible que cela évoque le mouvement en soi, parce que l'on sait bien que l'on bouge continuellement et inconsciemment les objets de place. Je montre un moment fixé pour prouver doublement ce mouvement. D'abord au mur, cela ne tombe pas. C'est donc en opposition aux lois de la pesanteur. Et en plus, on sait que ce qu'on voit ne correspond pas à une place définitive ou choisie, mais qu'il s'agit d'un résultat dû au hasard. En imaginant les différentes places possibles des objets, on introduit un mouvement imaginaire.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Je suis en conversation avec Laurence Bertrand d'Orléac à propos du livre qu'elle vient de publier pour en finir avec la nature morte chez Gallimard. Et nous venons de traverser la naissance de l'attachement à l'objet. Donc, puisque la grande question, c'est comment les objets ont-ils vécu leur traversée de l'art jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu les premiers attachements à l'objet, l'abondance des objets en Égypte. On vient d'évoquer les riparographes que je ne connaissais pas et qui sont ces peintres grecs ou romains de choses négligées et négligeables et qui ont un succès extraordinaire à leur époque. Et puis nous allons approcher maintenant d'un moment étrange, Laurence, qui est celui de l'éclipse. C'est-à-dire on a l'impression qu'après Rome et après la Grèce, il y a une disparition de l'objet comme sujet de l'art, au moins pendant 500 ou 600 ans. Est-ce que c'est ça?
Plus même, oui, généralement, on peut parler de 1000 ans. Vous voyez, Charles Terling parle de 1000 ans, du 6e siècle, disons, de la chute de l'Empire romain au 16e siècle. Alors, ça aussi, si vous voulez, c'est quelque chose qui revient sans arrêt. J'aime bien, disons, interroger les poncifs. Et je me disais, c'est pas possible quand même que pendant 1000 ans, plus d'objets, où sont passés les objets, où sont passées les choses. Et alors, c'est pas qu'il n'y a plus de choses, c'est qu'elles sont systématiquement, en tout cas, elles étaient systématiquement considérées comme rivées à la gloire de Dieu, bien sûr, mais elles devaient s'accompagner des figures des saints, du Christ, de la Vierge, des apôtres. Elles n'apparaissaient plus, si vous voulez, du tout. En toute indépendance, disons. Alors, vous imaginez que, donc, quand même, pour des artistes, vous connaissez les artistes, Jean, c'est penser qu'ils ont été à ce point dociles et à ce point, liés au discours religieux chrétien pour se passer de la représentation des choses pour elles-mêmes, c'est une question. Eh bien, en effet, il y a Mais c'est même pas extrêmement peu. Enfin, ça se compte sur les doigts de la main, disons. Ce sont des raretés. Et en général, on peut se dire que si on les trouve, disons, on les trouve généralement plutôt dans des ensembles, et des ensembles qui comportent également des figures humaines. Donc, c'est vous dire la force aussi du religieux. C'est pour ça que quand Sterling dit ce qui compte pour les artistes, c'est la forme, c'est vrai, mais quand même, ils sont liés, encore une fois, à leur époque et à leur croyance, aux interdits, etc.
Mais il y a quand même, Laurence, il y a quand même des objets qui apparaissent dans la peinture du début du Moyen-Âge comme des accompagnateurs symboliques, des sémiophores, qui viennent expliquer l'image, non, qui viennent donner le caractère de la Vierge ou bien les signes, non. Est-ce que c'est pas ça le rôle des objets, c'est simplement des accompagnateurs de sens?
Oui, alors là vous parlez des objets, cher Jean, mais moi je ne vous parle que de représentation des objets.
C'est vrai.
En fait, je me suis cantonnée volontairement vraiment à la représentation des choses et non aux choses elles-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, les reliques, disons, ne m'intéressent pas. Ce sont les représentations des reliques qui m'intéressent. C'est vraiment la question de la représentation que je pose. Alors j'ai quand même, si vous voulez, trouvé des raretés, en particulier, je les ai trouvées quand j'ai changé de focale. Et ça, c'est un point important, c'est que, au fond, cet agencement des choses, il a été conçu au cœur de la culture, disons des cultures, pour parler au pluriel, occidentale et orientale, mais d'une certaine manière, si vous voulez, c'est quand même une histoire très occidentale. Et si on sort, si vous voulez, de l'Occident, et si on change de focale, au même moment, en plein Moyen-Âge, disons, au XIIIe siècle, chez nous, alors qu'il n'y a plus de nature morte indépendante, vous avez un moine chinois excentrique qui s'appelle Muki.
Je l'adore. Et j'adore ce moment incroyable. Dans le livre, c'est merveilleux de le faire surgir.
C'est incroyable. Ouais. Mais oui, mais il a surgi pour moi vraiment de façon absolument incroyable. Donc il peint, si vous voulez, à l'encre sur papier, Sikaki. Sublime, vraiment, bon, qui sont considérés vraiment comme un chef-d'œuvre au Japon.
Les kaki sont les fruits, hein, ce sont les petits fruits ronds.
Ce sont des fruits,
ça,
ouais. Oui. Voilà, mais en réalité, et je parle sous la gouverne de mon ami Chan Mingpeng, qui est une grande spécialiste de ces œuvres chinoises, elle pense évidemment que ce sont des représentations de Bouddha. D'où la différence de taille, etc., de pesanteur, de prestance, si je puis dire. Il n'empêche que nous, si vous voulez, quand on les voit aujourd'hui, depuis aujourd'hui, il est évident que c'est une sublime nature morte que nous pouvons faire dialoguer. Alors, dans le livre, je m'amuse à la faire dialoguer avec une sublime nature morte de Luc Thumans, qui a peint sur un énorme tableau des choses en lévitation. Mais lui, il peint en 2002, alors que Muki...
On est en plein XIIIe siècle. C'est le Moyen-Âge, c'est l'époque de Notre-Dame.
Exactement.
Hein. C'est incroyable.
Mais c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est que tout est au fond, et on va le voir, on va y venir peut-être au XVIe, XVIIe siècle, les objets sont traversés par le sacré et par le religieux. Mais il n'empêche que là, on a vraiment quand même la représentation, c'est-à-dire que Dieu est vraiment dans les choses. Il est déjà dans les choses, si je puis dire, au XIIIe siècle.
Laurence, il faut que nos auditeurs imaginent, hein, c'est une page presque vierge, très très libre, elle fait 35 cm de haut. Oui. Il y a donc ces six fruits qui sont juxtaposés et chacun est peint avec un ancrage plus ou moins intense. On voit juste comme un audiogramme la queue du fruit cette petite foule de fruits dans un grand espace vide sans perspective apparente, etc. S'impose comme quelque chose d'incroyablement simple. Mais on est dans le zen. Donc effectivement, il y a une tension entre est-ce que ça a un sens ou est-ce que ça n'est qu'une réalité banale. J'aimerais bien qu'on écoute en regard de cela un propos qu'a quelqu'un que vous citez souvent dans le livre, qui est Francis Ponge. Écoutons-le.
Ce que j'aime, ce qui me touche, c'est la beauté non reconnue. C'est la faiblesse d'argument. C'est la modestie. ceux qui n'ont pas la parole, c'est à ceux-là que je veux la donner. Voilà où ma position politique et ma position esthétique se rejoignent. Rabaisser les puissants m'intéresse moins que de glorifier les humbles. Les humbles, le galet, l'ouvrier, la crevette, le tronc d'arbre et tout le monde inanimé, tout ce qui ne parle pas.
J'aimais bien entendre cet argument de Francis Ponge par rapport à Muki, ce chef-d'œuvre du Daitokuji, donc au Japon, parce qu'il y a une humilité, c'est vraiment prendre ce qu'il y a de plus humble, et le sens reste suspendu, parce que si vous n'avez pas le sens, la signification, vous le goûtez comme quelque chose de merveilleusement sensuel et beau, et si vous l'avez, vous n'avez pas fini de le comprendre, puisque c'est un sens lié à la vacuité et au presque rien, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai que quelle beauté ce texte de Ponge, qui avait l'art de se reposer du monde dans le silence des objets. Ce texte, il est extrait du parti pris des choses, qu'il publie en 1942 en plein désastre, en plein bruit de la propagande, au moment où le langage est usé par la propagande. Et donc, c'est quand il fait l'éloge du minuscule, il faut repenser à cette époque où il n'y en avait que pour la monumentalité, la force, la puissance et la brutalité. Donc, c'est évidemment, Ponge ouvre sur un statut des choses en majesté, c'est-à-dire, non pas que l'humain se soit absenté, mais d'une certaine manière, il fait partie de ces êtres qui sont capables d'avoir une attention pour la moindre chose. Et à cet égard, si je puis me permettre, parce que on se pose toujours des questions sur les sujets, évidemment, qui vous obsèdent, et je suis tombée sur une enquête d'un Anglais qui a fait une enquête auprès des habitants de Londres dans les années 1980. Et les résultats de l'enquête, c'est que les personnes qui s'intéressent le plus aux choses sont celles qui s'intéressent le plus aux êtres. Ça m'a beaucoup rassurée.
Mais c'est que je comprends. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites par rapport à Ponge, c'est qu'on comprend que le parti pris des choses est une résistance. C'est une résistance à la volonté de puissance, à l'embrasement du monde, en fait. Et ce qui me frappait aussi dans le livre, c'est que quand on passe de ces kakis de Muki à, par exemple, la très belle nature morte que vous présentez de Kotan, qui est une sorte de petite niche, une ouverture dans laquelle sont suspendus en perspective des faisans, où à droite il y a un extraordinaire qu'est-ce que c'est, rose, c'est une sorte de cardon, j'imagine, hein.
Cardon, exactement.
C'est ça, avec quelques navets. Eh bien, on voit cela, on ne voit que les choses les plus simples, les plus familières, j'imagine, à l'époque. Et pourtant, vous laissez entendre que flotte derrière cela aussi une interprétation et une signification.
Alors, c'est ce qui est beau, évidemment, dans les chefs-d'œuvre. Enfin, c'est à ça qu'on reconnaît, sans doute, les œuvres que nous considérons, en tout cas, comme les plus importantes. C'est-à-dire leur ouverture, leur potentialité, comme dit Gamboni. L'œuvre est intéressante quand elle est potentielle, disons. Et alors, disons que oui, on peut y voir toutes sortes de choses, y compris certains y voient des allusions sexuelles. On peut parler de quelqu'un a parlé de fruits classés X, vous voyez. Donc chacun y verra au fond ce qu'il veut bien y voir. Mais chez Kotan, je pense qu'on voit beaucoup aussi de dimension, disons, sacrée, voire métaphysique.
Enfin, c'est-à-dire, par exemple, vous interprétez, je pense que c'est l'histoire de l'art interprète ce Kotan, le cardon rose devient la couronne du Christ, les trois navets pointus deviennent les clous. Oui. On peut faire cette interprétation, ou c'est une surinterprétation, ou c'est un code de l'époque?
C'est un code de l'époque, certainement, qui peut-être nous échappe un peu plus aujourd'hui, mais c'est exactement comme dans le cas des kakis. de Mukhi, disons, ce sont peut-être des Bouddhas et ce sont peut-être des kakis et ce sont peut-être des kakis et des Bouddhas, mais chacun, il voit. Et je crois même qu'à l'époque, si vous voulez, les artistes étaient suffisamment malins pour savoir en fait qu'il y avait un double jeu. Ils jouaient au fond double jeu. Et on va le voir beaucoup dans les scènes de genre, en particulier avec ces grands marchés, vous savez, où les scènes religieuses sont reléguées au second plan en miniature.
Là, il y a un exemple, Laurence, il faut absolument que vous y reveniez, parce que c'est fabuleux dans le livre. Pierre Erstens, je le prononce mal, Erzen, le Christ chez Marthe et Marie de 1552.
Oui.
Vous pouvez nous le décrire, parce que c'est dingue, le tableau est dingue.
Ben oui, c'est une scène en fait, c'est ce que Toichita a appelé les inversions, disons. C'est-à-dire que on voit la scène religieuse qui était généralement, comme on l'a expliqué, donc pendant sans doute à peu près un millier d'années au premier plan, enfin qui était véritablement en majesté. On voit là, si vous voulez, le contraire, c'est-à-dire la scène du marché, la scène de la cuisine. C'est un poncif, si vous voulez, qui peut être, ça peut être une fois un marché, une fois une cuisine où l'on s'affaire mais disons que pour le Christ chez Marthe et Marie, évidemment, dont vous parlez, qui est de 1552, c'est cette scène donc du Christ qui visite Marthe et Marie sur la gauche, mais dans le fond presque en miniature, disons, est très peu colorée. Et au premier plan, en gros plan, disons, une énorme, comment dire,
un énorme gigot fabuleux,
qui déboule, si vous voulez, sur nous, qui vraiment se renverse sur les regardeurs, avec toutes sortes de choses autour, avec des pains, avec des fleurs, avec des objets, mais pour montrer vraiment que la matérialité est en train, disons, de gagner la partie. Erzen est vraiment le maître de ça.
Alors, cela dit, Laurence, le thème de Marthe et Marie, c'est un thème qui est lié à la cuisine.
Hein, c'est vrai, hein, c'est vrai.
Vous pouvez nous rappeler l'histoire?
Donc, Marthe, si vous voulez, est un, disons, l'épisode religieux, disons, l'épisode, donc, Jésus s'arrête dans la maison de Marthe. Et pendant que Marthe prépare le repas, donc sa sœur, Marie, écoute le prophète, mais n'aide pas Marthe à travailler. Et évidemment, Marthe se plaint. Et Jésus lui explique pourquoi sa sœur, finalement, a raison d'agir comme cela. Alors, le peintre, au fond, il raconte ça. Il inscrit même, d'ailleurs, sur la cheminée, Marie a choisi la meilleure part. Et il semble rendre justice à Marthe, disons, en même temps, si je puis dire, en faisant triompher les choses au premier plan. Vous voyez, c'est ça l'ambivalence, disons, de Erzen et de toute cette peinture de genre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle sera à la fois aimée des bourgeois, puisqu'on est en pleine expansion du capitalisme, il faut quand même le dire, c'est important. Et donc, ce type de, si vous voulez, de peinture, ce sont des peintures qui vont être très vendues. Et on va les vendre aussi, on va les trouver dans les palais princiers, y compris chez les représentants de l'Église. On en trouve aussi chez Catherine de Médicis, si vous voulez, dans les... Vous voyez, donc, en fait, ça peut être aussi considéré comme, regardez, on vous présente les choses en majesté, mais n'oubliez pas le récit canonique.
Oui, en même temps, on se demande si le récit canonique n'est pas reporté aussi parce qu'il n'est plus qu'un prétexte, en fait. Et c'est cette abondance capitaliste, comme ça, qui est en train de naître.
Parce que, tout à fait.
100 ans plus tard, dans votre livre, on découvre effectivement les grandes peintures d'une beauté, d'une transparence, d'une sensualité extraordinaire, comme celle de Wilhelm Kalm. Enfin, là, on est en 1660, 1662, grosso modo. Et là, il y a... c'est un, je le décris rapidement, puis j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que ça veut dire. Il y a un grand nautile monté sur un ornement extraordinaire. Donc, il y a une sorte de soupière un petit peu bleue posée sur un tapis d'Orient. Cette soupière donne l'impression d'être d'un bleu exotique. Il y a quelques fruits, un citron qui se déroule. Là, le prétexte religieux semble avoir totalement disparu en 100 ans, comme si l'argent et les biens terrestres avaient pris désormais toute la place. Est-ce que c'est le cas?
Oui, complètement. Je vous suis complètement. J'ajoute à ça que cette petite pot, disons que plutôt est une chinoiserie. C'est vraiment une chinoiserie, c'est-à-dire qu'il y a, disons que il y a aussi toute l'histoire de la fascination de l'Occident pour l'Extrême-Orient. Alors pour un Extrême-Orient complètement fantasmé, évidemment, hein, voire de pacotille, si je puis dire. Mais c'est un mélange, si vous voulez, d'objets au fond, d'objets exotiques aussi, y compris le tapis. Et puis il y a ce citron, il y a des sortes de poncifs de la nature morte qui se sont imposés comme des choses, si vous voulez, qui sont toujours les mêmes, mais sur lesquelles justement l'artiste va montrer qu'il excelle dans la représentation. Je pense à ce citron qui est à moitié découpé, hein, on voit tomber donc une partie du zeste, pour montrer aussi la corruption des choses. Hein, c'est très important. Derrière tout ce genre de représentation, il y a souvent aussi l'idée que du temps qui passe, disons, du déclin des choses. Et c'est une merveilleuse, effectivement, c'est une merveilleuse.
On peut appeler ça déjà une vanité ou pas? Parce que dans votre livre, vous évoquez la question de la vanité, que vous faites, par exemple, il y a une vanité du premier siècle, hein, qui était incroyable, que vous montrez en regard de Subhodgupta, qui est un grand crâne suspendu. Et puis, ça nous amène là où il n'y a même plus le crâne, mais vous pensez que c'est à peu près le même sujet?
Mais c'est la première, en tout cas, vanité que l'on connaisse, hein, celle dont vous parlez, qui est au musée d'archéologie nationale de Naples. Alors c'est magnifique, ça représente donc, c'est un compas, il y a un crâne humain, il y a les symboles du prince à gauche et il y a les symboles du mendiant à droite. Hein. C'est très très beau et j'espère que nous pourrons la présenter, bien sûr. Et en fait, si vous voulez, c'est beaucoup plus littéral, disons. Il y a vanité et vanité, disons. Là, on est vraiment dans le mouvement d'action-réaction, c'est-à-dire à la représentation vivante, disons, des choses banales, qui sont des objets, donc... d'échanges marchands ou autres, répondent la vanité, c'est-à-dire que, mais depuis le début, c'est-à-dire on peut pas dire finalement ce sont les chrétiens qui ont inventé cette idée de vanité, puisqu'on la trouve déjà chez les Romains, vous voyez. C'est très important ça, parce que c'est vrai qu'elle va se multiplier. Il est incontestable qu'elle se multiplie à partir du XVIe siècle de manière vraiment exponentielle, si je puis dire, jusqu'à nos jours d'ailleurs. Et c'est pour ça que je la mets en relation avec le Gupta, parce que le Gupta, il est évidemment cette énorme
gigantesque crâne fait de casseroles récupérées.
Oui, de récupérer donc de la cuisine domestique indienne, disons, hein, qui est une monumentale vanité, mais qui montre, disons, la longévité de ce genre de la vanité. Il y a une autre forme de vanité aussi à laquelle je me suis attachée, disons, et il me semble qu'on n'avait pas forcément fait le lien, c'est entre eux, en fait, les comment dire, ces trompe-l'œil, si vous voulez, en nature morte, qui sont des tableaux, je pense en particulier au tableau de Gisbrecht, donc au XVIIe siècle.
Ah, ça, c'est extraordinaire. Je trouve que le tout d'un coup se substitue à la vanité du monde marchand, de la vie qui s'écoule et que les bienfaits terrestres ne suffiront pas à rendre éternel la vanité de l'artiste lui-même, hein, parce que là il s'agit, vous pouvez décrire de quoi il s'agit, parce que c'est un petit tableau qui fait 66 cm, mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Dites-nous, Laurence, qu'on le décrive, faites-nous le voir.
En fait, disons qu'il y en a plusieurs du même artiste, mais celui auquel je pense, c'est tout simple, c'est un tableau retourné, donc on voit simplement le tableau retourné avec une petite étiquette, hein, avec un chiffre, et c'est tout. C'est-à-dire vraiment l'envers du décor, si je puis dire. Alors, ça peut être aussi, on peut en prendre un, parce qu'il n'était pas le seul à faire ça. Par exemple, de Lemotte représente un tableau avec un crâne, mais sur un tableau, sur un châssis, avec la toile qui se retourne, disons, en montrant l'arrière de la toile, c'est-à-dire le châssis. Autrement dit, finalement, la peinture n'est que vanité, et ça n'est que ça. Et ce qui m'a intéressé, c'est de montrer quelque chose que d'autres ont montré, comme Éric de Chasset très bien, c'est-à-dire que dans les années 1960, c'est-à-dire donc 3 siècles plus tard, des artistes de support surface comme De Zeuse ou Martial Rice, etc., vont peindre eux aussi la vanité de la peinture, eux aussi la vanité du marché. Parce qu'au fond, qu'est-ce que veut nous dire Gilbrecht au XVIIe siècle? Nous sommes en pleine ascension du capitalisme. Nous sommes en pleine ascension du marché de la peinture, mais plus de la peinture pour tout le monde, si je puis dire, mais de la peinture pour les intérieurs bourgeois, pour les intérieurs des bourgeois enrichis par le capitalisme. Et donc, si vous voulez, il y a une réflexion à la fois sur leur travail de peintre, disons, à quoi ça sert tout ça, en vertu de leurs croyances, hein, en particulier cet artiste, évidemment, est un protestant, et donc dans une logique aussi de réflexion, disons, certainement sincère du point de vue donc de la chrétienté, mais au fond, certainement déchristianisés, les artistes dans les années 1960, cette fois, vont refuser le marché, vont mettre en cause la peinture à tel point qu'ils disent, hein, et Éric a écrit tout un livre là-dessus, finalement, il faut arrêter de peindre. Hein, il faut vraiment arrêter de... ça n'a aucun sens, etc. Et qu'est-ce que montrent les artistes de support surface? Ils montrent les châssis de Zeuse, par exemple, en 67, ils montrent un châssis avec une feuille de plastique tendue et c'est tout.
Donc c'est là, c'est le moment où les choses remplacent l'art d'une certaine façon. On en revient au langage plus élémentaire. Alors que chez Gilbrecht, ce qui est extraordinaire, c'est que ce petit tableau qui représente, peint avec une virtuosité sublime, le dos d'un tableau, pourrait s'en emparer pour se demander ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'est un peu quelque chose qui est derrière tout votre livre, Laurence. Il y a quelqu'un dont j'aimerais bien qu'on écoute une phrase, c'est que c'est Marx. Écoutons un extrait du Capital, une fois n'est pas coutume.
Les marchandises ne peuvent point aller elles-mêmes au marché, ni s'échanger elles-mêmes entre elles. Il nous faut donc tourner nos regards vers leurs gardiens et conducteurs, c'est-à-dire vers leurs possesseurs. Les marchandises sont des choses et conséquemment n'opposent à l'homme aucune résistance. Si elle manque de bonne volonté, il peut employer la force. En d'autres termes, s'en emparer.
Laurence Bertrand d'Orléac, ce monde des choses et des marchandises, n'est-ce pas, qui n'oppose à l'homme aucune résistance, annonce quelque chose de tragique qui apparaît dans votre livre à partir de Goya, Géricault et bien d'autres. C'est le moment où le vivant devient lui-même une marchandise et est représenté par les artistes avec cet apitoiement, cette compassion extraordinaire.
Oui, il y a quelque chose évidemment d'une histoire tragique, et comme par hasard ça n'échappe ni à Goya ni à Géricault, qui l'un peint, disons, une tête de mouton comme vraiment une chose, il la dispose comme une chose, et puis Géricault qui montre des membres humains comme des choses. Il y a une chosification des êtres, c'est un tournant vraiment, ce début du 19e siècle, très important me semble-t-il, je crois qu'il faut les montrer tous les deux ensemble. Bien, tout cela, ça n'a pas échappé à Marx, qui a vu aussi le caractère de fétiche derrière les marchandises. Il a même parlé de leur caractère mystique, hein, en signifiant, je crois d'ailleurs que le Capital que j'ai relu, donc le premier chapitre en particulier, est vraiment une histoire religieuse du capitalisme et pas seulement économique. Au fond, le capitalisme, c'est une croyance, c'est une forme de croyance. Hein. Et donc, il y a cette espèce de situation étrange où on va assister en effet à une chosification du monde et en même temps, disons, et en même temps à une espèce de fétichisation de la marchandise, voire des choses, des gadgets, etc. Et c'est toute l'histoire au fond que raconte, je dois vous avouer, sans doute, vous savez, on a tous des sortes d'anges qui nous aident à écrire, Georges Perec dans Les Choses, une histoire des années 60, et c'est les personnages de Sylvie et Jérôme, disons, qui me semblent être encore de notre époque, c'est-à-dire qu'ils cherchent désespérément, au fond, derrière les choses, autre chose, si je puis dire, j'ai du mal à éviter le mot, Et je crois que, contrairement à ce qu'on a dit, Pérec ne se moque pas tant que ça de ses personnages. Je crois qu'il y a une tendresse, disons, envers ses personnages. Pauvre Sylvie et Jérôme, donc finalement à la recherche de fantômes et peut-être pauvre de nous.
Mais derrière toute la tyrannie des choses qui finissent par envahir nos vies, que le pop art, vous parlez beaucoup de Richard Hamilton, donc met en évidence, il y a aussi, vous l'évoquez dans le dernier chapitre, la question de la chosification du travail, la chosification des travailleurs, la transformation en choses des vies animales, par exemple, pour lesquelles vous marquez aussi la façon dont le monde des choses s'est, comment dirais-je, a pétrifié aussi le monde du vivant.
Oui, d'ailleurs, bon, sur la couverture, ça ne vous a peut-être pas échappé, il y a cette magnifique Cabeza de Vaca d'André Serrano de 1984, c'est une vache, en fait, sur un billot, disons, sur un bloc de marbre, qui est manifestement morte, puisqu'on voit encore le sang, mais elle nous a à l'œil, elle nous regarde, elle nous juge.
Oui, elle a vraiment un regard extrêmement furieux, et c'est un regard qui évoque exactement le regard du je sais pas, c'est un mouton chez Goya, de la tête de mouton de Goya, évidemment, qui a un regard aussi pareil, et donner un tel regard à la mort est quelque chose qui est on sent un reproche énorme.
Oui, c'est vraiment le cas de conscience. Bon, encore plus, je dirais, chez Serrano, il me semble que c'est la première bête de toute l'histoire de l'art qui nous accuse à ce point. Vous savez, quand on regarde les vaches, j'ai toujours été frappée par le doux regard des vaches. Et là, évidemment, c'est le contraire. C'est une œuvre très, très forte qui a posé problème. D'ailleurs, un ami qui vit à New York maintenant m'a dit « Tu ne devrais pas utiliser une œuvre pareille parce que tu vas faire de la peine aux gens. » Et heureusement, mon éditeur, Jean-Loup Champion, est courageux et m'a suivi dans ce choix qui me semble important. C'est-à-dire que je crois que à la fois la condition humaine, la condition animale, tout est questionné aujourd'hui. C'est un livre qui parle de la nature morte, mais au fond qui parle de notre époque, des problèmes de notre époque et en particulier du rapport que nous avons à la nature et au vivant.
Laurence Bertrand de Haléac, merci infiniment pour ce livre, merci pour vos commentaires. Ce livre est une traversée de l'histoire, mais aussi de notre relation aux choses, la façon dont on modifie le monde, dont on s'inspire du monde. C'est un livre essentiel qui décale complètement ce que nous savions. Et je vous remercie mille fois d'en avoir parlé aujourd'hui sur notre antenne. À bientôt, Laurence.
À vous.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
Aujourd'hui, j'ai reçu Laurence Bertrand d'Orléac pour son livre « Pour en finir avec la nature morte » paru dans la collection Art et Artistes chez Gallimard. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'est une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Les recherches sont assurées par Maureen Roy, lecture des textes Hélène Losseur, prise de son Baptiste Lénard et réalisation évidemment Thomas Jost. Merci Thomas. La semaine prochaine, nous visiterons l'exposition « Les origines du monde », le 19e siècle, l'invention de l'histoire, la découverte des cultures, des variétés, du premier homme au premier artiste. Ce sera une exposition passionnante, une exposition qui va solliciter tous nos savoirs.